Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, prise de son, Morgane Danan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Dernière chance de toucher le fond, ou plutôt les fonds, ces instruments financiers qui irriguent l'économie mondiale. Cette semaine, nous avons suivi l'argent des petits épargnants et des États dans la galaxie des fonds spéculatifs. Nous avons vu le cours de la bourse s'envoler puis dégringoler, provoquant en 2008 la ruine de milliers de retraités. À présent, c'est dans les pas des virtuoses de Wall Street que nous allons nous inscrire, que nous apprend l'histoire de spéculateurs de génie comme Warren Buffett ou George Soros. Comment devient-on l'un des hommes les plus riches de la planète ? Un mode d'emploi à écouter jusqu'à 15h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous glisser dans la peau des spéculateurs menacés aujourd'hui par la concurrence des robots en compagnie de Christophe Boucher, économiste, professeur à l'université Paris-Nanterre, en compagnie également de Yamina Tadjeddine en duplex de Nancy, économiste également, professeur à l'université de Lorraine. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Christophe Boucher, Yamina Tadjeddine.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, c'est le dernier épisode de notre série consacrée cette semaine aux fonds d'investissement. Est-ce que vous pouvez d'abord résumer pour nous, Yamina Tadjeddine, ce qui distingue finalement ces différents fonds dont nous avons parlé toute cette semaine, fonds souverains, fonds de pension et hedge funds ?
Alors je vais y revenir et d'ailleurs je voulais vous remercier d'avoir fait cette série d'émissions parce que je pense que c'est trop souvent méconnu et je pense que ça a été fait de façon très intelligente en rappelant ces différents acteurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Eh bien c'est que tous vont placer de l'argent qui n'est pas le leur. Donc autrement dit, on va leur déléguer le choix de sélectionner des titres. Simplement, l'épargne peut venir de différents donateurs, on peut dire. Donc vous avez débuté la semaine avec les fonds souverains, l'argent vient alors de l'État. Ensuite, vous avez poursuivi avec les fonds de pension, et les fonds de pension ont ceci de particulier qu'il s'agit d'une épargne réglementée, autrement dit, on ne peut pas le gérer n'importe comment. Et enfin, hier, eh bien, la dernière catégorie de personnes en charge de placer l'argent étaient les fonds spéculatifs ou les fonds activistes. Et là, on avait la particularité d'avoir une épargne qui est plutôt de nature individuelle, volontaire, avec derrière des épargnants qui ont conscience des risques et qui sont prêts à le placer sur des produits éminemment risqués.
Alors vous nous avez extrêmement bien écouté, merci Yamina Tadjeddine. En effet, on a parlé cette semaine de ces différents fonds, mais on ne s'est pas encore intéressé, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, à la figure de l'investisseur ou du spéculateur. Or, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des figures comme Warren Buffett, George Soros, qui sont finalement des figures mondialement connues, des spéculateurs stars, peut-être qu'on peut dire cela, Christophe Boucher.
Oui, c'est-à-dire que... Alors on les appelle pas tellement des stars, mais plutôt des gourous, parce que ce sont des gens qui ont eu un succès certain, qui l'ont communiqué ce succès, donc ils sont bien identifiés. Et alors, à partir du moment où on sait qu'ils ont eu du talent ou de la chance, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, on essaye de comprendre ce qu'ils veulent dire, d'en retirer des conseils. Et effectivement, certains de ces gourous sont même adulés avec des, typiquement pour Warren Buffett, des gens qui sont prêts à payer plusieurs dizaines de milliers de dollars pour déjeuner avec lui, pour pouvoir échanger, discuter, sachant que cet argent ensuite est reversé à une fondation, typiquement. Donc c'est, on voit aussi que Warren Buffett est soucieux, alors d'autre chose que simplement ses profits financiers, ou alors il se construit une image.
Mais ça a évolué, par exemple. Et alors peut-être avant de venir au parcours de Warren Buffett, ce que l'on voit avec ces différentes figures d'investisseurs, Christophe Boucher, c'est qu'il existe différentes stratégies d'investissement selon, par exemple, les risques que l'on prend ou les sommes que l'on investit.
Oui, alors déjà, je pense qu'il faut peut-être partir de la définition de ce qu'on appelle spéculer. Parce qu'on entend souvent trader, spéculer, investir, tout ceci est quelquefois un peu confus. Ce qu'on appelle spéculer, c'est Nicolas Kaldor en 1939 qui propose une définition qui est devenue classique. C'est l'idée d'acheter un bien ou un actif, une commodité, dans l'espoir de le revendre plus tard, et de réaliser une plus-value, c'est-à-dire de gagner de l'argent sur la différence de prix. Et on parle de spéculation dès lors que cet achat, motivé par la revente, n'a pas pour objectif de profiter du bien ou de profiter de l'actif entre l'acte d'achat et l'acte de vente. Donc la spéculation, c'est quelque chose qui est quelquefois considéré comme moralement discutable, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose uniquement avec l'espoir de le revendre plus tard et gagner de l'argent.
Moralement discutable, Yamina Tadjedine, parce qu'on estime que la spéculation, les opérations financières de ce genre seraient décorrélées de ce qu'on appelle l'économie réelle.
Alors effectivement, il me semble aussi intéressant de revenir sur les figures de Warren Buffett et ce que vient de dire Christophe Boucher, c'est que tout l'enjeu va être de savoir finalement comment on anticipe l'augmentation du prix. Et à ce titre-là, on va pouvoir estimer que le prix va augmenter parce que la valeur de l'entreprise va augmenter. Autrement dit, que l'économie réelle se développe. Et à ce titre-là, Warren Buffett est en fait l'emblématique de ce qu'on appelle la stratégie dite fondamentaliste. Autrement dit, on va essayer au maximum de se documenter sur le potentiel des entreprises. Il intervient surtout sur le marché actions, le marché obligations. Et si on estime qu'il y a un potentiel de développement, eh bien, on va acheter les titres quand on estime que le prix sous-évalue cette valeur dite valeur fondamentale en économie.
Et ça, c'est vraiment la stratégie de Warren Buffett.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rattaché à une autre figure historique qui a été d'ailleurs son professeur, qui était Benjamin Graham, qui en fait estimait que l'unique stratégie pour gagner de l'argent, c'est acheter quand quand le prix est trop bas, donc quand il y a une décote, et revendre au-dessus. Alors la particularité de Warren Buffett, c'est qu'en plus, il a une logique de long terme. Autrement dit, quand il effectue cet achat avec décote, il le garde au moins 5 ans. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire des va-et-vient permanents.
Et alors cette marque de fabrique, effectivement, du long terme, chez Warren Buffett, Christophe Boucher, a fait ses preuves, notamment lorsqu'il a investi dans des entreprises leaders sur leur secteur, comme Coca-Cola ou Gillette. Mais en revanche, il a loupé le coche des nouvelles technologies.
Oui, alors ça va. C'est, en même temps, c'est lié à son approche. C'est-à-dire que Warren Buffett, comme l'expliquait Yamina Tadjedine, c'est l'idée d'acheter une entreprise pour ce qu'elle génère de profits, d'activités. Donc c'est quelque chose de très concret. Mais en même temps, il cherche à les acheter pas très cher. Et donc c'est son style, concrètement, d'investir dans des business, dans des activités qui sont compréhensibles, qui sont extrêmement tangibles. Et donc oui, il va expliquer à la fin des années 90, alors que lui n'investissait pas sur les valeurs technologiques, les sociétés Internet et autres, qui étaient en bulle en particulier, il disait... Moi, je ne comprends pas, donc je n'investis pas. Et alors, ça peut être à double tranchant, cette stratégie, parce que si les investisseurs, si ses clients sont suffisamment patients, ils vont lui dire, OK, il a peut-être raison, attendons avec lui. Mais quand on n'est pas Warren Buffett et qu'on a ce type de stratégie, de se dire, je ne vais pas sur tel secteur, c'est une bulle, je ne veux pas y aller, c'est dangereux. Le problème, c'est que tous les autres concurrents, eux, y vont, et tant que la bulle se développe, cela génère beaucoup de rentabilité, beaucoup de plus-value. Et donc, les clients, généralement, fuient ceux qui refusent de participer à cela. Ce qui fait que Warren Buffett était connu pour être un investisseur de long terme et avait déjà une certaine réputation à la fin des années 90.
Et c'est là qu'on comprend que la réputation est absolument essentielle et la confiance qu'on peut avoir dans un investisseur.
Absolument. Pour tous les autres, le danger, c'est on a envie de participer à la bulle. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va éclater. Et donc, c'est un peu le jeu des chaises musicales. C'est-à-dire que la bulle se développe. Nous, on veut, en tant qu'investisseur, gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je continue à acheter ou à me positionner sur l'actif qui est en bulle tant que la musique continue, c'est-à-dire tant que la bulle se développe et que les prix montent. Le jour où tout ceci se retourne, il ne faut pas être le dernier à vendre. Donc c'est un jeu extrêmement compliqué et c'est ce qu'on appelle les euphories spéculatives. Warren Buffett, pour revenir à lui, essaye d'éviter ce genre de thématique, mais la plupart des investisseurs surfent sur ce genre de bulles et de développement.
On peut se demander, Yamina Tadjedine, comment Warren Buffett a réussi à devenir l'un des hommes les plus riches de la planète. On estime que c'est peut-être la troisième fortune mondiale derrière Jeff Bezos et Bill Gates, alors même qu'effectivement il n'a pas investi dans les nouvelles technologies et peut-être d'ailleurs qu'il le regrette. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, Je dirais déjà qu'il a commencé il y a fort longtemps. Alors l'avantage d'être, d'avoir débuté il y a fort longtemps, c'est que quand on a commencé à placer dans les années 50-60 et qu'on a eu la lucidité, par exemple, d'acheter American Express à peu près $15, eh ben en fait, depuis, le cours a colossalement augmenté. Donc la particularité, c'est qu'on sait qu'on a eu des rendements exceptionnels sur les marchés financiers, particulièrement les marchés actions, dans les années 70-80, dont a pleinement bénéficié Warren Buffett. Donc la conjoncture financière a été source de performances exceptionnelles, avec la possibilité d'être facilement millionnaire sur des valeurs qui étaient des bons pères de famille, on va dire, qui n'étaient pas, qui ne subissaient pas l'instabilité liée à la bulle. Donc autrement dit, en ayant ces positions très très longues, à des moments particuliers où on avait une croissance exceptionnelle et derrière un contexte de désinflation compétitive dans les années 80, etc., qui ont permis des rendements exceptionnels, qui l'ont permis d'accumuler quand même une large partie de sa fortune. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui viendrait sur les marchés financiers avec un petit patrimoine, est-ce qu'il aurait la même longévité et la même derrière rémunération pendant aussi longtemps que Warren Buffett? J'en doute. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont fait des coups, donc je pense que par la suite on parlera de Steve Eisman, mais des coups fabuleux où ils ont pu être millionnaires sur un coup, mais après, les coups ne se reproduisent pas aussi fréquemment que ce qui aurait pu être le cas dans les années 70-80.
Et ça n'empêche pas Warren Buffett de délivrer ses conseils de vieux routier de la bourse.
La diversification a très peu de sens pour quiconque sait ce qu'il fait. La diversification est une protection contre l'ignorance, c'est-à-dire que vous voulez être sûr qu'il ne va rien vous arriver sur le marché où vous investissez. Il n'y a rien de mal à ça. C'est une approche logique pour quelqu'un qui estime ne pas savoir comment on évalue une entreprise et sa valeur. Mais si vous savez le faire, c'est de la folie de posséder 20, 30 ou 40 actions. Il n'y a pas tant d'entreprises merveilleuses et faciles à comprendre pour un être humain. Avoir une entreprise merveilleuse et mettre de l'argent dans l'entreprise numéro 30 ou 35 de votre liste d'entreprises attractives, et du coup ne pas mettre plus d'argent dans la numéro 1, pour moi c'est de la folie. Pourtant c'est une pratique courante, et si tout ce que vous recherchez c'est à rester dans la moyenne, alors ça vous aidera probablement à conserver votre emploi. Mais pour moi c'est une confession, vous ne comprenez pas vraiment les entreprises dans lesquelles vous investissez.
Voilà, on entend souvent dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais ce que dit ici Warren Buffett, Christophe Boucher, c'est qu'il ne faut pas non plus multiplier les paniers.
Oui, alors, bien sûr, il y a les deux positions un peu extrêmes, c'est-à-dire est-ce qu'on diversifie avec tous les titres en portefeuille, et là on se rapproche de ce qu'on appelle la gestion passive, c'est-à-dire que simplement on investit sur tout, et dans ces cas-là, eh bien on va faire la moyenne. Quand on est un investisseur dit actif, ce qui est le cas de Warren Buffett, mais pas au sens de activisme, c'est-à-dire activisme, c'est de prendre en charge la gestion d'entreprise, ce qu'il a pu faire aussi, mais il fait pas que ça. Un investisseur actif, c'est au contraire quelqu'un qui va faire des paris. Donc ça peut du coup ressembler à la spéculation, c'est-à-dire que plutôt que détenir, prenons le marché américain 500 sociétés américaines dans son portefeuille, il va en détenir 50 ou 100, et donc il faut opérer des choix. Et ces choix se font sur la base d'analyses économiques, financières, qui peuvent ressembler à de la spéculation, puisqu'il faut faire un choix, donc il faut faire les meilleurs paris sur la société qui va, dont le cours boursier va le plus apprécier.
Et en même temps, il a fait un pari, Warren Buffett, à la fin des années 90. Il a parié qu'un simple fonds d'action indiciel, alors je vous laisserai définir ce que c'est qu'un fonds d'action indiciel, mais il a parié que ce fonds d'action ferait mieux sur 10 ans que des fonds spéculatifs, et c'est un pari qu'il a remporté en pochant $1 million au passage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Yamina Tajeddine, les enjeux de ce pari?
Alors en fait, véritablement, c'était une position qui était pour s'opposer à, je dirais, des logiques de gestion, qui est une logique dite plutôt quantitative, où on va sélectionner les titres, non pas sur la base de la valeur fondamentale, mais sur la base de calculs qui peuvent être notamment, par exemple, sur l'évolution passée des prix. Et l'idée derrière de Warren Buffett était de se démarquer en disant non, il faut regarder les entreprises. Et par là même, ce que vous faites d'acheter et vendre très très vite, eh bien, s'avère une stratégie où effectivement vous pouvez gagner, mais sur le long terme, vous ne battrez pas le marché, notamment parce que, par exemple, vous avez des coûts de transaction qui vont être très importants dans les va-et-vient de vos achats et de vos ventes. Et finalement, vous ne ferez pas mieux que la référence qui est l'indice. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que lui, à contrario, a toujours revendiqué une gestion qui n'est pas basée sur un indice. Lui, comme on vient de l'entendre, il s'oppose non seulement donc à ces automates et un peu quantitativistes de la finance, mais il s'oppose aussi à cette idée qu'il faudrait appliquer son portefeuille. Donc là,
On a raté un de vos mots, Yamina Tadjedine, vous disiez.
Ah, pardon, je sais pas. Par son propos, en fait, il attaque deux autres types de gestion. La gestion qui serait basée uniquement sur des outils quantitatifs et qu'on retrouvait dans les années 80 sur des fonds spéculatifs. Et de l'autre côté, eh bien, l'idée qu'il faudrait absolument diversifier. Lui, au contraire, ce qu'il dit, c'est choisissez et misez tout dessous. Et comme vient de le dire juste avant Christophe Boucher, eh bien finalement, on se retrouve assez proche sur la logique de certains hedge funds qui sont contre aussi la diversification et qui vont se baser sur des paris.
Christophe Boucher.
Oui, alors ce petit pari est lié à un enjeu et à un débat fondamental en théorie financière qui est lié à ce qu'on appelle l'efficience des marchés. C'est-à-dire que si vous pensez que le marché est efficient, que les prix sont justes sans arrêt, ça ne sert à rien de spéculer puisque de toute façon, le prix est juste et donc vous achetez, il n'y a pas moyen de faire mieux. Et donc c'est un débat qui existe depuis au moins les années 50, 60, 70, avec ceux qui vont vous expliquer que ça sert à rien d'essayer d'être actif, de spéculer, il vaut mieux détenir quelque chose de moyen qui ressemble à ce qu'on appelle la gestion passive ou gestion indicielle. On achète un panier qui est défini, ce qu'on appelle un indice, qui est défini sur des critères très simples, la capitalisation boursière le plus généralement, et il suffit d'acheter cela et on aura l'essentiel de la performance. De l'autre côté, il y a ceux comme Buffett qui pensent que si on est actif, on peut faire mieux, mais en même temps, il faut être vraiment intelligent ou chanceux. C'est tout ça l'ambiguïté. Et donc, le débat pour lui, c'était de dire, si vous investissez comme ça au hasard sur un gérant actif qui n'est pas bon, lui, il a des frais de transaction, comme le disait Yamina Tadjedine, mais il a aussi des frais, ce qu'on appelle des frais de gestion, c'est-à-dire qu'il est rémunéré pour gérer l'argent. Et donc, si on additionne ces frais-là, il sera moins bon qu'un investissement passif. Lui, au contraire, il dit, moi, je suis capable d'y arriver parce que je ne suis pas dans la moyenne. Mais c'est un vieux débat, c'est-à-dire que lui, il est capable d'y arriver, mais des tas d'autres ne sont pas capables. Et Paul Samuelson expliquait que, à partir du moment où le marché est efficient, que les prix sont justes, il faut que tous ces financiers arrêtent de travailler. Il ferait mieux d'apprendre un autre métier comme la plomberie pour se rendre utile pour la société. Et Warren Buffett, lui, est convaincu que par son approche, qui est originale, l'analyse fondamentaliste, il peut au contraire faire mieux que tous les autres fonds actifs et générer plus de performance.
À condition, comme vous dites, d'être talentueux et d'avoir de la chance. Alors il y a une autre figure et une autre stratégie d'investissement, c'est celle de George Soros, qui est donc un financier américain d'origine hongroise. Quel est d'abord, Yamina Tadjedine, son parcours de Budapest à Wall Street ?
Alors, il a dû fuir la Hongrie, puisqu'il l'a fui avec la montée du nazisme. Et donc, il poursuit ses études au Royaume-Uni. Et donc, de mémoire, je crois que c'est Cambridge. Je ne sais plus si Cambridge ou Oxford. Et la particularité, c'est que donc, il a commencé ses études en Autriche et donc a été assez sensible à l'école autrichienne, économiste autrichienne, notamment les figures de Hayek, Schumpeter. Mais quand il est on est dans les années 30, quand il est en Angleterre, eh bien, il va côtoyer l'école keynésienne et notamment avoir toute la réflexion de Keynes sur la spéculation. Donc, qui est son fameux chapitre 12 que tout à l'heure Christophe Boucher vous a évoqué à travers le jeu des chaises musicales. Et finalement, il va avoir être porté par cette formation, même si par la suite il part aux États-Unis et puis il va arrêter la carrière universitaire, même si de mémoire je crois qu'il avait commencé ou même fini une thèse en philosophie, mais en étant
il se décrit lui-même comme un philosophe raté.
Voilà. Et quand on lit, enfin moi j'avais lu un certain nombre de ses ouvrages, on va retrouver toute cette réflexion autour de l'ordre spontané, donc qui est plutôt cher à Hayek, mais aussi de l'autre côté cette idée que on a un besoin de réglementer l'espace financier, ce qui est totalement contre-intuitif par rapport et au personnage un peu sulfureux de George Soros, mais aussi par le fait que finalement il a été à la tête d'un très gros hedge fund qui s'appelle le Quantum Fund, qui a eu des performances très importantes et qui est à l'origine notamment d'une attaque spéculative contre la livre sterling en 92.
Et c'est intéressant de voir que ces personnages comme George Soros et, ou comme Warren Buffett sont à la fois des spéculateurs qui assument effectivement ces méthodes d'investissement et qui en même temps, dans le cas de Buffett, estiment que les super riches ne sont pas assez taxés, et dans le cas de Soros, qu'il faut absolument réguler cette spéculation, Christophe Boucher.
Oui, alors, ce sont des prises de position qui leur permettent aussi peut-être de... Ils sont devenus suffisamment riches, donc ils sont riches, ils peuvent passer à autre chose.
Leur est venu de construire leur mythe, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, peut-être d'être un peu plus philanthrope, parce qu'ils peuvent éventuellement avoir des remords, ou parce qu'il faut bien s'occuper.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'il a été, George Soros a été condamné pour délit d'initié quand même à la fin des années 80, par exemple.
Oui, c'est ça, malgré tout, ce sont quand même deux figures assez opposées. Hein, quand on parle de Warren Buffett et de George Soros, avec des images qui s'entretiennent volontiers. C'est-à-dire que même si George Soros aujourd'hui est plutôt dans la philanthropie, néanmoins sa réputation s'est faite comme un redoutable spéculateur contre l'intérêt des nations. C'est quand même là-dessus qu'il s'est fait connaître. Alors que Warren Buffett, c'est le financier sobre, celui qui a un profil bas, qui vit simplement, sobrement, voire qui peut paraître pingre, qui n'a rien à voir avec d'autres figures de Wall Street ou même George Soros, qui est le financier un peu agressif, qui attaque l'intérêt public, si vous voulez.
Agressif, c'est justement comme ça que George Soros se décrivait en 1994.
Je suis investisseur professionnel. Et on pourrait dire qu'un investissement, c'est une spéculation mal tombée. Mal réussite, ça devient un investissement. Alors, on pourrait dire que tous les investissements sont spéculatifs. Moi, je suis plus agressif que la plupart des investisseurs professionnels parce que j'investis mon propre argent. Et le contrat entre mes investisseurs et moi, c'est que je prends les mêmes risques qu'ils prennent. Alors, c'est un autre contrat de ce qu'on a en général, qui est la responsabilité fiduciaire. Alors, à cause de ça, je suis plus agressif, que je suis plus comme un investisseur privé, tandis que je le fais professionnellement, qu'un investisseur institutionnel.
Yamina Tajeddine, ce qu'on entend ici, c'est que George Soros se présente finalement comme un spéculateur et aurait tendance peut-être à considérer quelqu'un comme Warren Buffett comme un simple investisseur, entre guillemets.
Alors là, c'est un peu fallacieux, parce qu'en fait, dans le cas de Warren Buffett, a aussi investi sa fortune. En fait, on est dans le cas de deux acteurs de la finance qui ont construit leur propre fonds, donc tous les deux dans les années 50, et qui ont investi leur propre patrimoine, et dans le cas de Warren Buffett, le patrimoine de ses amis et de sa famille. Donc là, pour le coup, on peut pas les distinguer, puisque l'un et l'autre vont plutôt être dans la catégorie des hedge funds. Donc on est dans des catégories où très souvent le gérant est en même temps détenteur de part du fonds et donc de la sorte beaucoup plus concerné par l'évolution du fonds.
Alors que lui fait la différence entre l'investissement, le fonds d'investissement institutionnel et le fonds d'investissement qui correspondrait à sa fortune.
Alors, ce que ça attaque derrière, c'est plutôt ce qu'on appelle les mutual funds, ou bien en France, ça serait les organismes de placement collectif, où là, pour le coup, quand vous êtes un gérant d'une SICAV ou d'une SCP, généralement, vous n'avez pas de part. Donc, tout ce qui est les fonds déployés chez Natixis, chez BNP Paribas, PAM, enfin, etc. Donc, en fait, là, ce qu'il attaque derrière, c'est en fait tous les produits qui sont offerts au grand public, alors même que le Quantum Fund ou le fonds de Warren Buffett, eh bien, vont être réservés à des personnes initiées qui acceptent de prendre le risque avec eux.
Et à que désigne cette responsabilité fiduciaire dont George Soros parle ici, Christophe Boucher ?
Alors ça, c'est assez classique, ça se voit effectivement beaucoup dans les fonds spéculatifs. C'est simplement pour résoudre un problème d'incitation, pour être sûr que le gérant spéculatif ne fait pas n'importe quoi avec l'argent qu'on lui a confié, il met lui-même ses propres sous. Donc c'est purement pour aligner les incitations et montrer que, regardez, je vais pas faire n'importe quoi de votre argent parce que j'y ai aussi mes billes. Parce que ce qui différencie quand même, même s'ils ont tous les deux une partie de leur richesse personnelle investie dans leur propre fonds, hein, George Soros et Warren Buffett, c'est quand même les instruments et les approches qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc Warren Buffett, on l'a déjà dit, c'est un investisseur de long terme, il cherche des entreprises, il achète des entreprises. George Soros, il peut utiliser quelque chose qui est un peu différent, qu'on appelle les ventes à découvert. Donc c'est propre typiquement aux hedge funds. Les ventes à découvert, c'est toujours spéculer, mais dans l'autre sens. Je m'explique. Lorsque je vous ai donné la définition de la spéculation, c'était on achète bas et on vend haut. Mais on peut aussi gagner de l'argent en vendant haut et en rachetant plus tard bas. Donc ce qu'on appelle les ventes à découvert, on appelle ça aussi les shorts en anglais, c'est quand même ce qu'utilisent beaucoup les hedge funds. Et c'est ce que George Soros a typiquement utilisé dans le cas de la crise du début des années 90 contre le Pound, où il s'est mis à shorter le Pound parce qu'il jugeait que la valeur du Pound n'était pas la vraie valeur.
Et c'est comme ça qu'il a acquis ce surnom de l'homme qui a ruiné la Banque d'Angleterre. Alors vous parlez du short, justement, l'un de ceux qui l'a pratiqué et qui est le plus connu, c'est Steve Eastman, qui a parié donc sur l'effondrement des subprimes. Il est incarné par Steve Carell dans The Big Short. Et dans cet extrait, Mark Baum, c'est son nom dans le film, vient d'apprendre que la banque Morgan Stanley risquait de perdre 15 milliards de dollars.
Morgan fait faillite, toutes nos positions tombent dans leur compte.
C'est n'importe quoi. Morgan fait un pari à la con et ce serait à nous d'éponger ?
Déjà, on short les bancaires et on attend. Ou on vend nos swaps à l'ouverture du marché. On a nos bonus, nos investisseurs ont leurs bénéfices, on fait 30% à l'arrivée, pas si mal.
Ça vaut déjà trois fois ça.
Sauf s'il n'y a plus de marché pour vendre.
Pas question, on sort pas les gilets de sauvetage pour eux.
Marc, si Morgan coule, on se retrouve à poil.
Vinny, arrête, merde.
On vend comme moi, je le dis.
T'en fais une affaire perso, je comprends. Mais on a avant toute chose une responsabilité fiduciaire.
Non, aucune. Putain, mais qui se montre responsable ? Une responsabilité, tu me dis ça à moi ? Ces connards des grandes banques, ils vont se prendre...
Un apéritif, messieurs ?
On parle, s'il vous plaît ! On va attendre, et on va attendre, et on va attendre, jusqu'à ce qu'ils aient mal, jusqu'à ce qu'ils saignent. Voilà ce
okay,
que je veux.
Ok, mais tu penses un peu aux clients qui nous ont fait confiance avec leurs économies,
leurs pensions. On vend quand je le dis.
Il s'agit pas de toi. Il s'agit pas de toi avec ta morale bourgeoise.
On vend quand je le dis.
Voilà Steve Eastman qui est incarné ici par Steve Carell donc dans le film The Big Short. C'est l'un des shorts les plus célèbres de l'histoire, Christophe Boucher.
Oui, alors Steve Eastman n'était pas particulièrement connu auparavant, avant 2008 et puis les années plus récentes. Il est rendu célèbre par ce livre, The Big Short, et surtout l'adaptation au cinéma, qui va le rendre emblématique de ces investisseurs qui font des shorts, donc ils vont gagner de l'argent contre l'avis général, contre l'opinion populaire. Donc c'est un pari extrêmement audacieux, hein, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui gonfle, une bulle qui gonfle, parce que tout le monde est en train d'acheter, et vous êtes persuadé que ça n'est pas la bonne valeur, et vous allez essayer d'avoir une action contraire, donc vous allez vendre pour gagner de l'argent quand tout ceci va éclater. Et ce qui est assez important de comprendre, c'est que on parle de spéculation, mais il faut voir que la spéculation a aussi un rôle bénéfique à jouer. Alors il y a un débat, est-ce qu'elle est stabilisatrice, déstabilisatrice, mais elle a aussi un rôle stabilisatrice, la spéculation, au sens où quand il y a une erreur, une bulle, simplement que tout le monde se trompe, bah, ces shorts vont faire apparaître le vrai prix ou quelque chose qui se rapproche du vrai prix. Et souvent, ces gérants de hedge se présentent et peuvent être caractérisés comme des gens qui se battent contre le système pour révéler la vraie nature des choses, avec bien sûr cette ambivalence que le short va provoquer aussi la chute des prix et l'appauvrissement de tous ceux qui étaient au contraire exposés à cet actif. Et donc c'est assez souvent assez ambivalent. Et je vais prendre un autre exemple, si vous me permettez, donc des choses qui sont un peu moins connues. Mais vous avez des sociétés aux États-Unis, des hedge funds, qui sont spécialisées dans la détection de fraude dans les entreprises. Donc il y a plusieurs cabinets qui existent. Un des plus fameux, un des plus célèbres, parce que le nom aussi est assez amusant, c'est Gotham City Research.
Évocateur, en effet.
Absolument. Et donc, ils sont bardés d'avocats, d'analystes financiers, et ils épluchent les comptes des entreprises. Et lorsqu'ils détectent une faute que personne n'a vue, ils la travaillent, ils la documentent, et au moment où ils la rendent publique, ils se mettent à shorter le titre. Donc, on va se dire, ce sont des méchants, ils shortent le titre, ça va faire chuter le cours, et des gens vont s'appauvrir. Oui, mais en même temps, il révèle la vraie information.
Alors, on va faire réagir Emina Tajeddin à ce rôle de révélateur que peuvent jouer ces spéculateurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, effectivement, en fait, la réalité, je vais revenir aussi sur le cas de Steve Eastman parce que je souhaiterais rajouter quelque chose, mais effectivement, il ne faut pas nier le rôle des hedge funds. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité est que c'est des acteurs qui prennent des risques. Mais fondamentalement, derrière, ils acceptent de prendre le risque que les autres ne prennent pas. Et à ce titre-là, ils ont un rôle finalement essentiel puisque la plupart des autres intervenants des marchés financiers vont avoir une obligation ou un désir de se couvrir contre les risques. Or, fondamentalement, ces acteurs-là sont des preneurs de risques. Alors, si je reprends, parce que je pense que c'est très important d'avoir en tête que la stratégie de Steve Eastman, donc The Big Short, est une stratégie sur des produits dérivés. C'est-à-dire que quand Christophe Boucher vient de dire qu'il est short, attention, il n'était pas short sur la vente d'actions ou d'obligations, il a une position de vente sur un produit dérivé très particulier qui s'appelle un CDS.
Et qui ce sont les crédits default swap qui sont ces assurances destinées à se couvrir contre le non-remboursement d'un emprunteur.
Exactement. Exactement. Et en fait, ce que eux vont anticiper, c'est que fondamentalement, les grandes banques, à un moment donné, vont se retrouver dans des situations de non-remboursement des crédits sur les titres qu'ils ont acquis, et donc vont avoir besoin de cette couverture de risque. Et donc, c'est cette position, et cette position n'aurait pas pu être prise, par exemple, par un fonds réglementé, un fonds de retraite ou par exemple un OPC ne peut pas aller sur des produits non réglementés. Or, en finance, on a tout un espace, l'espace des contrats dérivés, qui sont non réglementés et la contrepartie, à savoir le preneur de risque, ne peut être qu'un hedge fund. Parce que précisément, les autres voulant se couvrir, eh bien, le seul acteur qui est présent et qui va accepter de prendre ces risques, ce sont ces hedge funds-là.
Alors ce que vous dites, c'est que cette prise de risque peut être bienfaitrice pour l'économie.
À partir du moment où on a fait le choix d'une financiarisation et en acceptant que les risques seraient pris par les marchés financiers, bah dans ce cas-là, les hedge funds remplissent cette fonction-là. Mais attention, on sait très bien que quand vous avez une crise systémique, les hedge funds n'y pourront rien, ils sont très peu nombreux, et ça sera in fine toujours l'État qui viendra sauver le système financier.
Too much monkey business des Kings sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho. Christophe Boucher, Yamina Tajeddin sont toujours avec nous pour parler des stratégies plus ou moins heureuses des grands investisseurs. Alors derrière ces stratégies se pose la question de la rationalité des investisseurs. Et pendant longtemps, la théorie économique a estimé que les financiers étaient des agents parfaitement rationnels. Yamina Tajeddin, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Alors, comme on a bien exposé Warren Buffett et la stratégie fondamentaliste, eh bien l'idée c'est que nécessairement la spéculation allait ramener à l'état fondamental. Donc c'est la thèse de l'efficience des marchés. C'est-à-dire que si vous achetez quand les prix sont trop bas et que vous vendez quand les prix sont trop hauts, eh bien vous ramenez automatiquement le prix à la bonne valeur. Donc ça, c'est la thèse de la thèse fondamentaliste et qui a le mérite de dire aux spéculateurs, faites du profit. Et en même temps, vous participerez à la stabilisation des marchés, à l'efficience des marchés.
Sauf que cette théorie de l'efficience des marchés a été remise en cause par des travaux empiriques qui ont révélé l'existence de biais cognitifs.
Alors, de biais cognitifs, mais aussi, comme l'a mentionné tout à l'heure Christophe Boucher, le fait que peut-être que les gens ne sont pas uniquement motivés, ou bien même ne peuvent pas aller contre le marché. Et donc ça, c'est tout l'intérêt initialement de Keynes, d'avoir dit, oui, mais on ne peut pas aller contre l'opinion du marché. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est très intéressant, enfin je fais un tout petit aparté, mais Steve Eastman, après sa grande réussite, crée son propre fonds. Et son fonds va perdre de l'argent. Et lui-même va dire, en fait, je ne peux pas faire de l'investissement sur la base seule des fondamentaux, dès lors que le marché ne me suit pas. Donc on voit que même des gens qui croient à la valeur fondamentale, qui y sont attachés, on ne peut pas perdre durablement de l'argent dès lors que tous les autres suivent l'opinion du marché.
Christophe Boucher.
Oui, c'est un problème de coordination assez incroyable. C'est-à-dire que quand un investisseur achète un actif, l'opinion collective va compter. C'est-à-dire que s'il achète un actif, qu'il est tout seul à l'acheter et que tous les autres le vendent, le prix va baisser. Donc il achète quelque chose dont le prix baisse. Donc il y a cet aspect de je dois acheter un actif en espérant que l'opinion collective, l'ensemble des investisseurs, a aussi la même idée en tête. Et donc il y a une sorte de coordination alors qu'ils ne peuvent pas... tous se coordonner en s'appelant, en s'envoyant des textos, ce genre de choses. Et c'est encore une fois Keynes qui, assez tôt, avait bien résumé ce fonctionnement des marchés financiers. Et pour cela, il utilisait l'allégorie du concours de beauté, qui est devenu extrêmement célèbre. Et donc, je vous explique en quelques mots comment fonctionnait ce jeu. C'était dans les journaux de l'époque, donc au début du siècle dernier aux États-Unis. Il y avait des concours de portraits de femmes. Donc, c'était uniquement sur des portraits de femmes à l'époque. Et donc, on avait des médaillons comme cela publiés dans la presse avec 5-6 portraits de jeunes femmes. Et les lecteurs, souvent les hommes, devaient voter pour le plus beau portrait. Alors, attention, celui qui gagnait était tiré au sort parmi ceux qui avaient voté. Ceux qui avaient choisi le portrait qui avait été le plus préféré. Au sens où vous gagnez que si vous avez deviné ce que les autres vont voter. Et sur les marchés financiers, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le cadre du concours de beauté, si vous êtes persuadé que ce portrait est votre préféré, mais que vous voulez gagner, ça ne compte pas. Vous devez deviner l'opinion collective. Sachant que vous savez que chacun des autres participants qui font l'opinion collective... se disent la même chose. Et donc, Keynes expliquait, on est dans un jeu comme ça à 1, 2, 3 étapes, voire beaucoup plus, où on doit deviner ce que les autres pensent, sachant qu'ils sont en train d'anticiper ce que tout le monde pense, sachant qu'ils sont en train d'anticiper que tout le monde pense que tout le monde pense.
Mmh. Et d'où l'intérêt de développer une discipline comme la finance comportementale qui a eu ses propres prix Nobel, Yamina Tajeddin, et qui justement met en valeur tous ces biais cognitifs qui peuvent motiver les décisions des agents économiques.
Alors, ça, c'est tout à fait exact. Et effectivement, donc, on a eu deux porte-paroles. Le premier, Shiller, qui, en fait, vient de la critique de l'efficience et de la lecture keynésienne. Et l'autre, Thaler, qui, en fait, l'un et l'autre, très tôt, ont contesté la question de l'efficience des marchés, mais en signalant que cela provenait du fait que vous aviez des individus derrière qui décidaient et que ces individus avec une psychologie qui n'était pas celle pensée par les économistes. Et donc, ce courant qui s'appelle la finance comportementale a tenté de découvrir toutes ces erreurs, mais pas des erreurs ponctuelles, c'est des erreurs systématiques que l'on retrouve quand un individu prend une décision. Et la particularité de la finance, c'est que vous prenez une décision dans un univers risqué et deux grands psychologues israéliens, Kahneman et Tversky, avaient révélé que dès qu'on est en décision de risque, on a des comportements qui se développe et qui diffère de ce que prédit la théorie.
Alors on peut donner un exemple, par exemple il parle du biais de représentativité et il donne l'exemple du jeu de la roulette pour bien l'expliquer.
Alors en fait l'idée est que théoriquement vous avez une chance sur deux, alors bon j'enlève le zéro, donc imaginons que vous avez que pair et impair, vous avez une chance sur deux soit d'être rouge, soit d'être noir. Et ce qui se passe c'est que quand vous avez une série de rouges qui sortent, vous allez avoir tendance à modifier la probabilité de survenance du rouge en l'élevant ou en la diminuant si vous dites « bon là, il y a eu trop de rouge et ça va être un noir ». Mais ça peut être aussi « bon, ben, il y a une série de rouges, tant pis, je continue sur le rouge ». Et donc, alors même que la probabilité objective, autrement dit la réalité mathématique, aurait été une probabilité 1/2, quelle que soit l'histoire du tirage.
Alors, il y a ces différents biais, et il ne faut pas oublier un biais qui est important, qui est le biais de surconfiance.
Un fait de base, c'est que les gens sont typiquement trop optimistes. Donc, on demande des gens, est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne des conducteurs automobiles? Et mettons, 90% des gens vont dire, oui, je conduis mieux que la moyenne des conducteurs. De même, vous demandez à des étudiants d'école de commerce, est-ce que vous pensez, au début du cours, est-ce que vous pensez que votre note sera au-dessus, au-delà de la moyenne ou de la médiane? Et aussi, 70% de la classe pense qu'ils auront une note au-dessus de la médiane de la classe, ce qui est strictement impossible quantitativement. En revanche, dans les situations dans lesquelles on apprend beaucoup moins vite la justesse de ces prédictions, par exemple, même les médecins, est-ce que vous pensez que quelles sont les probabilités que cette patiente sorte de son cancer? Là, ces gens tendent à commettre beaucoup plus d'erreurs. Donc on peut mieux comprendre dans quel domaine est-ce que les gens vont être vraiment rationnels, au contraire dans quel domaine est-ce que les gens peuvent se laisser aller à rêver et après en tirer les conséquences.
Xavier Gabay, professeur à la Stern School of Business de New York, il était sur France Culture en 2007. Ce biais de surconfiance, il est particulièrement fort dans le monde de la finance, Christophe Boucher?
Alors ça, je ne sais pas, mais quelque chose qui est sûr, c'est que les financiers ont un biais de surconfiance comme toutes les autres professions et tous les autres individus. C'est-à-dire que ce biais-là, il n'est pas uniquement lié à la finance, et tous les biais comportementaux que va révéler la finance comportementale ou l'économie comportementale se retrouvent dans des tas de professions, médecins, instituteurs. Le biais de surconfiance, vous pouvez le faire aussi avec des instituteurs, institutrices. Vous leur demandez, est-ce que vous enseignez mieux que la moyenne? Ils sont 90 pourtant à répondre oui ou non. Donc, je suis pas certain que le biais de surconfiance soit plus élevé chez les investisseurs professionnels, voire même les études tendent plutôt à montrer que ce sont les investisseurs individuels, c'est-à-dire ceux qui jouent avec leur propre argent, qui font du trading, mais pour eux-mêmes, des petites sommes d'argent pour s'amuser presque, qui sont le plus soumis à ce biais.
Et quelles conséquences ce biais peut-il avoir?
Très concrètement, ça peut vous pousser à prendre beaucoup plus de risques. Et c'est pour cela que on peut même penser que les investisseurs professionnels sont peut-être moins soumis à ce biais, parce que malgré tout, quand ils gèrent de l'argent, qu'ils ont des entreprises pour cela, enfin dans des sociétés de gestion d'actifs, il y a des process, des procédures, des outils qui limitent cette prise de risque. Il y a bien sûr un contrôle de par le département de la gestion des risques, des contrôles réglementaires, mais on peut se dire que malgré tout, les investisseurs professionnels sont probablement moins soumis aux biais de comportement que des investisseurs individuels, que des épargnants classiques. Je voudrais quand même...
Je vous en prie.
Ouais, ajouter une chose qui est assez ironique en fait en économie, c'est que l'année où Robert Shiller est récompensé avec le Nobel d'économie, pour le remercier et légitimer tous ses travaux sur la non-efficience des marchés, la même année, il partage ce prix avec Eugène Fama, qui est lui pro-efficience des marchés, c'est-à-dire que on ne voit ça quasiment qu'en économie. C'était déjà
arrivé par le passé. Grand art des prix de la Banque de Suède.
Ouais, c'est ça. Alors, il s'appelle le Nobel par abus de langage, mais peu importe. On récompense au même moment deux chercheurs qui ont des opinions diamétralement opposées. Parce que, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la finance comportementale et l'économie comportementale, qui se repose aussi sur des analyses psychologiques, a entraîné une révolution dans la manière de penser des économistes. Mais en même temps, ça n'a abouti à pas grand-chose en termes de façon de gérer de l'argent, d'investir. C'est-à-dire que ça a vraiment accouché d'une souris en termes de conséquences pratiques.
L'idée est plutôt d'essayer d'échapper à ces biais cognitifs. Et pour ça, la solution pourrait être les robots traders.
Ce que les robots vont faire, c'est qu'ils vont passer des ordres dans le carnet d'ordre. Ils vont dire, voilà, moi, robot, je veux acheter tant de titres à tel prix, dans telles conditions. Je ne veux pas les payer plus que tel prix et je veux en acheter tant. Ce qui va être différent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est qu'ils vont passer beaucoup plus d'ordres et à une fréquence, c'est pour ça qu'on les appelle à haute fréquence, absolument inimaginée jusqu'à là. Hein, c'est-à-dire, c'est une question de microsecondes. Donc.
Le trading haute fréquence, c'est une capacité à utiliser une supériorité technologique pour passer devant les autres. Et dans le monde du marché financier, si on court plus vite que les autres, on va prendre les meilleurs prix, exécuter avant. Et alors la course ici, c'est une course informatique, c'est une course technologique.
Ça devient une course à l'armement. Parce que s'il y en a qui le font à du 10 millième de seconde, vous êtes à des avantages si vous le faites au millième de seconde. C'est évident, parce que vous arrivez après la bataille. Donc, même si on arrêtait tout ça au millième de seconde, les humains sont de toute manière et hors du paysage, ils n'ont plus aucun rôle à jouer.
Voilà des extraits choisis d'un reportage de Cash Investigation qui avait été diffusé en 2012. Yamina Tajeddine, on peut dire aujourd'hui que les traders ont été largement remplacés par des robots?
Ben disons que si on regarde par exemple les transactions qui sont passées par exemple à Paris, bien dorénavant on a plus d'un tiers qui provient de robots. Et si on regarde aux États-Unis, vous avez 65% des ordres qui sont dorénavant passés par le fait d'algorithmes.
Donc on peut imaginer que ça va se développer encore en France.
C'est sûr que ça va se développer encore en France. Et alors attention, hein, parce qu'en fait, on va y revenir sans doute, mais les algorithmes peuvent passer des millions d'ordres sur des temps très très courts, mais ne peut-être pas garder aussi longtemps leur position. Et puis souvent aussi, il arrive que finalement, ils passent des ordres, mais qu'ils annulent presque immédiatement les ordres qu'ils ont passés. Donc, même si en fréquence, c'est eux les leaders, en termes de durabilité, non. De position, on n'est pas sur des Warren Buffett.
Quoi. Alors ça ouvre un certain nombre de questions, effectivement, sur les avantages et l'efficacité de ce trading à haute fréquence. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet, Christophe Boucher?
C'est assez controversé, c'est-à-dire que bon, l'inconvénient, c'est qu'on a des ordres qui passent et la majorité quasiment des volumes de transactions au quotidien sont faits de robots qui réagissent à des micro-nouvelles, des petits écarts de prix. Donc en soi, il n'y a pas d'utilité économique si ce n'est de réaliser des arbitrages entre des petites différences de prix sur différentes plateformes. C'est-à-dire, pour expliquer, assez souvent, ces robots fonctionnent de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plateformes où on peut échanger des titres, des plateformes concurrentes, et parce que tout ceci a été libéralisé. Et donc, si vous avez le même titre qui est valorisé 121,50 € à un endroit et 121,49 € à un autre endroit, eh bien, une perspective de bénéfice, alors de 1 centime, mais vous faites pas pour un seul titre. Et donc, ça permet juste d'égaliser le prix d'un même actif ou d'un même titre sur deux places différentes. Il y a aussi un deuxième usage qui en est fait, parce qu'il faut pas oublier que ces algorithmes sont programmés par des humains, c'est-à-dire que c'est juste une main armée, en quelque sorte, l'algorithme. Il ne fait qu'appliquer ce que l'humain lui a dit de faire. Ce ne sont pas des algorithmes intelligents au sens où ils prennent des décisions eux-mêmes. On les a programmés pour ça. Et donc, ce que l'on voit aussi, l'autre usage qui en est fait, c'est de se dire, ben voilà, imaginons qu'un banquier central parle et qu'il annonce, alors c'est plus subtil que ça, mais je vais caricaturer un tout petit peu, qu'il annonce que les taux d'intérêt baissent. Ben, le taux d'intérêt baisse a des implications sur des tas de prix d'actifs. Et donc, si vous ouvrez le journal le lendemain matin, vous ouvrez le FT et vous voyez les taux d'intérêt ont baissé. Vous dites, les taux d'intérêt ont baissé, je dois acheter tel titre. C'est trop tard, puisque tous ceux qui avaient la nouvelle avant, et si vous fonctionnez comme ça, il faut être le premier à avoir passé l'ordre dès lors qu'on sait que le taux d'intérêt a baissé. Ce qui fait que c'est pour aller plus vite, mais en même temps, ça procure de la liquidité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volume qui circule, et donc, il y a toujours des robots qui achètent, qui vendent, et un investisseur lambda, Warren Buffett, ou George Soros, ou l'investisseur père de famille, peut se dire, grâce à cette liquidité, je vais pouvoir toujours acheter, à un moment de la journée, les titres, parce qu'il y aura des animateurs de marché.
Et que dire des risques de krach boursier qui seraient liés à ces robots, Yamina Tajeddine? Est-ce qu'il faut considérer que les robots augmentent ce risque?
Alors en fait, ce qu'on a observé, donc vous avez un exemple fameux, c'est le 6 mai 2010, où vous avez eu ce qu'on appelle un flash crash. Donc autrement dit, c'est un krach boursier brutal. Donc avec quand même une décote de 10%, c'est-à-dire que le Dow Jones s'est passé de 10 700 points à 9 800, puis est remonté à son niveau initial. Et donc, le crack a duré 14 minutes. Donc, vous chutez de 10%, vous remontez de 10%, et ça en 14 minutes. Donc, en fait, si vous êtes tranquille chez vous, vous êtes juste connecté la veille et le soir, vous n'aurez rien vu du crash. Maintenant, le problème, c'est que ce qu'on appelle dans l'intraday, l'infrajournalier, eh bien, ça procure des volatilités colossales et qui peuvent être à l'origine d'ordres passés. Et à ce titre-là, le trading de haute fréquence crée de l'instabilité et pose d'ailleurs des problèmes pour savoir qui on doit condamner. Est-ce que c'est le concepteur du modèle? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est les données? Etc.
Mais là, ça a été prouvé que c'était la responsabilité des robots qui était en jeu.
Oui, là, on avait retrouvé l'origine du donneur d'ordre. Alors là, j'ai plus le nom, mais en fait, on sait exactement d'où c'est parti. Mais une fois que ça part, le premier va faire effet boule de neige et d'autres vont suivre automatiquement.
Alors, ça pose une autre question. Est-ce qu'il faut ralentir les marchés financiers pour éviter ce genre de crack ou pour éviter peut-être les fraudes, Christophe Boucher?
Alors effectivement, on n'en a pas parlé encore, mais ce type de robot algorithme peut aussi être à l'origine de fraude. C'est ce qu'on appelle ça la stratégie du smoking, de la fumée. C'est-à-dire que ces robots vont passer des ordres. Je veux acheter plein de titres, de ce titre. Donc on les voit apparaître dans le système, ce qu'on appelle le carnet d'ordres. On voit, tiens, il y a un intérêt pour cette valeur, il y a quelqu'un qui va en acheter beaucoup. Et au moment où ça va passer, le robot les annule, parce qu'on a le droit d'annuler des ordres tant qu'ils ne sont pas réalisés. Mais les autres se sont dit, tiens, il y a un intérêt sur la valeur, donc moi je vais l'acheter. Alors que le robot l'aura acheté avant, et quand le cours aura grimpé, il le vend. Alors ça, c'est quand même des pratiques frauduleuses qui sont surveillées, la réglementation a changé.
Mais à très haute vitesse, c'est plus compliqué de les surveiller.
C'est plus compliqué, justement. Mais maintenant le régulateur s'est quand même adapté. C'est-à-dire qu'il y a toujours la course entre l'innovation financière et le gendarme qui court après. Là, pour le moment, c'est bien suivi. C'est-à-dire que les sociétés sont pénalisées si elles annulent trop d'ordres. Donc cela est suivi. Malgré tout, donc ça crée de l'instabilité à très très court terme, mais c'est pas ce qui est le plus grave pour l'économie réelle. Ça pose des problèmes, il faut les traiter, mais c'est quand même pas l'enjeu de l'instabilité financière, ces micro-cracks qui sont en train d'être traités. Il faut s'occuper de ce problème.
Il y a quand même des marchés qui ont décidé de ralentir. Ça a été le cas aux États-Unis, ça a aussi été le cas en Allemagne.
Oui, c'est de réduire un peu la liquidité parce que, et encore une fois, c'est Keynes qui racontait cela, c'est que lorsque la liquidité, c'est la capacité d'acheter et de vendre à n'importe quel moment, de transformer le titre que vous avez acheté en cash pour pouvoir acheter autre chose. Cette liquidité, lorsqu'elle est très importante, eh bien, elle vous pousse justement à spéculer un peu trop puisque vous avez l'impression d'être libre, de pouvoir acheter, revendre quand vous voulez. Et donc, oui, il y a probablement un certain mérite à un peu ralentir les bourses mondiales, mais ce qui ne va pas non plus empêcher les bulles spéculatives, les grands cracks et les grandes crises. C'est pas ça.
Alors, on arrive au terme de l'émission. Un dernier mot, peut-être, donc, sur l'avenir et sur les transformations de cette figure de l'investisseur. On est parti de Warren Buffett, on est arrivé aux algorithmes. Yamina Tajeddine.
Je pense que l'humain continuera à exister, mais par contre, ce qu'on va avoir, c'est effectivement, on n'en a pas peu évoqué ici, c'est tout ce qu'on appelle ETF, qui sont des produits clés en main que vous pouvez acheter. Et donc, en fait, je pense qu'on va avoir une baisse des frais de transaction avec un développement, finalement, de produits tout faits et qui seront faits par des machines.
Christophe Boucher, un dernier mot.
Oui, alors effectivement, le prochain enjeu pour la stabilité financière, c'est les conséquences du développement de cette gestion passive, gestion indicielle, où on se rend compte que plus l'argent est investi sur ce type de fonds, plus les marchés sont volatiles, mais avec une volatilité à ce qu'on appelle la moyenne fréquence, avec des grands mouvements dans les cycles financiers. Et c'est probablement le prochain enjeu.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Les BRICS réunis en sommet à Brasilia, 11 ans après sa création, le groupe des 5 pays émergents les plus prometteurs est en perte de crédit. Ce sera le sommet de la refondation.
En tout cas d'abord celui de l'affichage de l'unité et des ambitions pour ces 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui critiquent unanimement et explicitement, je cite, le protectionnisme et les intimidations à contre-courant. C'était les mots du président chinois Xi Jinping. Et c'est déjà une réussite interne, alors que le Brésil et la Chine divergeaient grandement il y a quelques mois encore. On se souvient des mots du président Bolsonaro, la Chine n'achète pas au Brésil, la Chine achète le Brésil. Reste maintenant le message, le bloc est en perte de croissance et plus hétérogène qu'auparavant. Il risquait d'être dédaigné par les investisseurs. Goldman Sachs, qui avait formé l'acronyme en 2001, a terminé, il a clos son fonds BRICS en 2015. Standard & Poor's se demandait récemment si les BRICS avaient encore un sens. Alors certes, ce n'est plus un ensemble dans lequel on investit les yeux fermés, dit l'économiste Laurence Daziano, maître de conférence à Sciences Po. Mais avec 40% de la population mondiale et pas loin d'un quart de son PIB, le bloc a encore un sens.
Si on regarde hein, les économies BRICS, ils arrivent quand même à se classer pratiquement dans le top 10 des économies mondiales. Le Brésil est 7e, il est avant la Grande-Bretagne, la Russie est 8e, l'Inde est la 10e économie mondiale. Donc ils ont quand même encore un poids qui font que ce concept de BRICS n'est pas non plus tout à fait terminé. Ils ont aussi des échanges entre eux qui sont importants. Par exemple, le Brésil, il faut voir que si on prend les 8 premiers mois de 2019, les échanges commerciaux entre le Brésil et la Chine sont beaucoup plus importants qu'entre le Brésil et les États-Unis, alors qu'on dit que politiquement, les deux présidents brésiliens et américains sont très proches. Donc, économiquement, il y a quelque chose qui rassemble les BRICS. N'oublions pas, dans un précédent sommet des BRICS en 2014 à Fortaleza, qu'ils avaient créé la nouvelle banque de développement qui se voulait le pendant de la Banque mondiale sous influence des émergents. Et ils avaient même créé un fonds qui se voulait le challenger du FMI. Certes, qui n'a pas beaucoup prospéré, mais vous avez quand même, dans cette histoire de 10-11 ans de sommet des BRICS, des étapes qui font qu'aujourd'hui encore économiquement, BRICS, ça veut dire quelque chose, même si ça n'est pas, et c'est peut-être en ça qu'on peut parler de refondation, si ça n'est pas le concept économique qu'on voyait au départ.
Et justement, l'un des défis pour la prochaine décennie dorée des BRICS, comme la qualifie Xi Jinping, ce sera de fabriquer des outils de financement puissants.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a déjà la représentativité dans les grandes institutions FMI et Banque mondiale qui s'améliore, mais ce n'est pas assez, il faut des outils ad hoc. Hein, cette NBD, Nouvelle Banque de Développement, vous en avez entendu parler, créée en 2014, jusqu'ici, qui n'avait prêté que 7 milliards et demi de dollars l'année dernière. Et puis les BRICS ont essayé de mettre en place des outils qu'on pourrait appeler accélérateurs financiers, comme le BRICS Pay, un système de paiement interbancaire, une carte de paiement interbancaire sans passer par le change, ou une alternative au système SWIFT de reconnaissance internationale interbancaire.
On passe au bref. Le futur commissaire européen au marché intérieur, numérique, industrie et défense sera-t-il français? Thierry Breton passe son examen final devant le Parlement.
Oui, c'est en ce moment même pour l'ancien dirigeant d'entreprise et ministre français qui doit donner les garanties qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts. Après avoir réussi à convaincre de justesse la commission juridique du Parlement européen, 12 voix contre 11, il passe aujourd'hui devant les 751 députés, devant lesquels il promet d'être radical. Outre les liens de Thierry Breton avec certaines grandes entreprises, la gauche du Parlement s'intéresse aussi à sa vision du marché intérieur et de ses règles, par exemple en matière de protection des travailleurs. Et c'est important, on dit que le vote dépend de ce groupe socialiste et démocrate.
Et pour finir, l'extension du domaine de Google. L'entreprise de services en ligne veut désormais se lancer dans la néobanque.
Oui, là en proposant dès l'année prochaine d'ouvrir des comptes courants. Le groupe Google, qui avait déjà un système de paiement en ligne, va donc plus loin dans le monde bancaire. Amazon serait d'ailleurs en discussion avec Goldman Sachs pour un projet similaire. L'idée n'est pas vraiment de devenir banquier en ligne, c'est un partenariat avec une véritable banque Citigroup pour Google pour gérer les comptes, dans lequel le plus intéressant pour Google, qui offre ses tuyaux, est l'accès au flux complet de données interbancaires et des flux financiers. Après l'annonce du partenariat avec le spécialiste de la santé Ascension hier, eh bien, la quête pour de nouveaux consommateurs, comme dit le Wall Street Journal, continue.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore.
On se quitte avec Angèle et son titre Oui ou Non. Merci beaucoup Christophe Boucher et Yamina Tadjedine de nous avoir dévoilé les coulisses de la bourse. Et un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Nancy. Demain, Bercy contre Buzyn. Comment sauver les hôpitaux après la grande manifestation du personnel soignant? On posera la question à nos trois invités. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves. Celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. tu m'embrasses puis tu me laisses.